Je voudrais que nous lisions deux textes qui se trouvent dans l'évangile selon Luc ce matin. Le premier se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 2e et au verset 25. Luc chapitre 2 et le verset 25. Et voici ce que nous pouvons lire. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Amen. Et puis un autre texte qui se trouve toujours dans l'évangile selon Luc, et cette fois-ci au chapitre 4 et au verset, chapitre 4 et au verset 14, il nous est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Gloire au Seigneur. Ce sont vraiment deux textes merveilleux et qui ont ceci en commun, et ça va être le thème, eh bien, ce matin de notre méditation, qui ont ceci en commun, la consolation que Dieu donne selon les Écritures. Selon les Écritures, la consolation. Il nous est dit que Siméon, cet homme dont le nom signifie « celui qui écoute », celui sur qui le Saint-Esprit est bien résidé, il nous est dit « Siméon attendait la consolation d'Israël ». Dans l'Écriture, ce mot est extrêmement fort, parce que la consolation, le consolateur, revêt d'un sens extrêmement important dans la parole de Dieu. Jésus, parlant de l'action du Saint-Esprit, dira, et même parlant du Saint-Esprit lui-même, dira ceci, il parlera d'un autre consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Notez bien que lorsque Jésus dit un autre consolateur, ça signifie également que lui-même, eh bien, témoigne que son ministère est un ministère qui va dans le sens de la consolation, et nous le verrons. Et c'est pour cela que j'ai lu, eh bien, ce texte de l'Évangile selon Luc au chapitre 4, lorsque le Seigneur débute son ministère, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, eh bien, pour annoncer quoi ? Une bonne nouvelle aux pauvres, pour aller consoler ceux qui ont besoin de cette consolation. Les pauvres, les affligés, les opprimés, les aveugles. » Alors on comprend que ce texte revêt aussi un sens spirituel. Le Seigneur ne vient pas simplement pour donner la lumière à ceux qui sont aveugles, littéralement atteints d'une cécité physique, mais il fait entrer dans la lumière celui qui est dans les ténèbres du péché, qui est loin de Dieu. Comprenez bien cela. Mais c'est un ministère de consolation qui vient vers celui qui est isolé. Parce qu'en réalité, le mot consolation parle de soulagement, Mais dans l'Écriture, lorsqu'il nous est parlé du paraclète, du consolateur et du fait de consoler, c'est celui qui se tient, le consolateur est celui qui se tient avec celui qui est seul, qui parle pour lui, qui le défend. On pourrait parler de défenseur, d'ami ou d'avocat. Et nous comprenons que ici, la consolation, ce n'est pas simplement le fait de dire « Allez, mouche-toi un bon coup, essuie tes larmes, je suis avec toi, etc. » Non, ce n'est pas simplement cela. Je veux dire « Mais je suis avec toi pour te soutenir. » Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, Jésus a dit « Mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et je vous donne un autre consolateur afin qu'il soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Alléluia. Et c'est vraiment de cela dont nous avons besoin. Parce que nous comprenons que nous pouvons rencontrer les uns et les autres tellement d'obstacles dans notre vie, dans nos vies, tellement eh bien, d'épreuves. Mais il me semble que la plus grande épreuve, c'est celle de se retrouver tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, il y a un texte qui est tout à fait surprenant. Où Jésus eh bien, va guérir un homme dans cette piscine de Bethesda. Vous vous souvenez, cet homme est malade depuis 38 ans. Il attend d'être guéri là depuis 38 ans. Et lorsque Jésus, et c'est unique dans l'Écriture, Jésus pose pour la première fois cette question. Veux-tu être guéri? C'est Jésus qui demande à quelqu'un s'il veut être guéri. Signifiant par là l'état de misère dans lequel cet homme était là. Même la présence de Jésus n'était plus capable de susciter en lui la foi. Habituellement, c'est au passage de Jésus que les gens découvrent la foi. Cette femme à la perte de sang qui touche le bord du vêtement de Jésus, ce centenier qui envoie un serviteur pour dire « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Vous connaissez tous ces textes-là. Jésus suscite la foi, c'est extraordinaire. Mais là, il y a un tel sentiment d'abandon, il y a un tel sentiment de misère que cet homme a besoin que ce soit Jésus lui-même qui lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et la réponse de cet homme, elle est terrible. « Seigneur, je n'ai personne. » C'est-à-dire qu'on est en train de comprendre une chose, c'est que, en réalité, on peut rencontrer les uns et les autres des épreuves, mais si on est au moins deux, on va y arriver. Et l'Écriture a raison de dire « Deux valent mieux qu'un. » Mais ici, on est en train de s'apercevoir que cet homme, plus que sa souffrance, plus que ses 38 ans de maladie, il dit je n'ai personne. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un au milieu de nous qui se trouve dans cette situation-là et qui découvre peut-être, qui peut-être pense même à tort, un enfant du Seigneur en raison de toutes sortes de situations difficiles que tu peux éprouver, peut-être familiales, peut-être de santé, peut-être professionnelles, en disant mais je me sens tout seul. Et je voudrais qu'au nom de Jésus, eh bien, cette pensée, ce raisonnement soit brisé, parce que tu n'es pas tout seul. Alléluia. Et lorsque le prophète Ésaïe parlera du Messie à venir, il parlera de celui qui se nomme Emmanuel. J'aime bien toujours ce prénom. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Dieu avec nous. Alléluia. Dieu qui est là. Alléluia. Lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et nous comprenons que nous avons besoin d'une seule chose, c'est de la présence du Seigneur. Alléluia. Tu peux passer par des moments douloureux, difficiles. Tu peux affronter un passé, eh bien, où tu as fait tant et tant d'erreurs. Mais ne l'affronte pas tout seul. Et le Seigneur veut te dire ceci. Je suis avec toi pour te libérer, pour te délivrer. Alléluia. Et mon premier point sera ceci. Eh bien, c'est que notre Dieu est le Dieu de toute consolation. On découvrira la consolation par Jésus, l'autre consolateur, le Saint-Esprit. Et puis que nous aussi, les uns et les autres, on doit être des consolateurs. Nous devons d'apporter une consolation eh bien, envers nos frères et nos sœurs, afin que celui-ci, celle-là, eh bien, ne soit pas seul. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer des heures et des heures eh bien, au téléphone. Parfois, à force de passer des heures, on raconte n'importe quoi et on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, mais c'est quand il nous est parlé de consolation, c'est de parler, eh bien c'est de prier les uns pour les autres. Alléluia. Une parole dite à propos, une parole de Dieu, un verset, un texte, c'est capable, eh bien de renouveler la foi. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors tout d'abord, pour vous dire que notre Dieu est le Dieu de toute consolation, et Siméon, eh bien, nous parle de celui qui écoute. Il attendait la consolation d'Israël. Il nous est dit que l'Esprit Saint était sur lui. Et cet homme, eh bien, va découvrir le Seigneur Jésus. Il va identifier dans l'enfant qui est auprès de lui le Christ, le Sauveur, le Messie. Il va dire, mais maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Et on est en train de comprendre une chose, c'est que cet homme se trouve au dernier rendez-vous de sa vie. Il est sur le point de mourir. Et certainement, ça s'agite dans son cœur. Il dit, mais comment je vais affronter cette dernière étape de ma vie? Je vais me retrouver tout seul. Et c'est vrai que les Hébreux, lorsque nous lisons l'Ancienne Alliance, eh bien, avaient une conception de l'éternité qui n'était pas très, très, très bien définie, pensant que seulement les vivants sur la terre pouvaient louer Dieu et qu'après, on était mort, eh bien, on était... Eh bien, dans un espèce de silence, il a fallu la nouvelle alliance et Jésus-Christ pour nous révéler qu'il en est tout autrement. Alléluia! Que la vie ne se termine pas là, mais au contraire, que nous entrons dans un royaume de gloire. Alléluia! Et que nous serons avec Jésus. Amen! Alléluia! Et moi, je bénis le Seigneur, amen, d'appartenir à Jésus. Parce que je sais un jour qu'il va bientôt venir nous chercher. Amen! Et qu'on sera avec lui. Je dis, mais Seigneur, reviens. Alléluia! On veut hâter son avènement. Pour faire connaître le beau nom de Jésus, témoigner que lorsque tu vas venir, Seigneur, ce soit une moisson, mais formidable, alléluia, que le plus grand nombre entre dans ta gloire. Mais Seigneur, eh bien, nous savons qui nous croyons et nous savons, eh bien, que nous ne serons pas seuls, que tu as vaincu la mort. Et cet homme dit, recevant Jésus, ben maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Alléluia. Mais c'est ça l'espérance chrétienne. Il y a quelques temps en arrière, il y a quelques années en arrière, lors des obsèques du frère d'une sœur au milieu de nous, il y a quelqu'un qui avait un certain âge qui s'est converti. Il avait un certain âge, je ne me souviens plus, 80 ans, il me semble. Là, son cœur a été touché, il a accepté le Seigneur. Il est tombé malade, l'âge, etc. Puis la maladie l'a emporté. Et un membre de sa famille est allé le voir à l'hôpital. J'étais allé le voir aussi à l'hôpital. Et il avait de l'humour parce qu'il a dit à cette personne de sa famille qui était malade à l'été, il dit, mais je vais déménager. Alors l'autre dit, comment ça tu vas déménager, tu vas aller où? Il a fait comme ça, je vais au ciel. Alléluia. Mais c'est réconfortant que cet homme faisait même de l'humour avec son propre départ parce qu'il savait où il allait. Alléluia. Il y avait de la paix, même cet humour, cette joie qu'il manifestait, eh bien, rendait compte, eh bien, de l'authenticité, eh bien, de sa foi et de son salut en Jésus-Christ. Alléluia. Et je voudrais vous dire ceci, on a vraiment besoin d'être consolé. Qu'est-ce que vous en pensez? On a vraiment besoin de savoir que, eh bien, malgré toutes les vicissitudes de cette terre, Jésus a vraiment vaincu la mort. Alléluia. Que nous avons la vie éternelle, on l'a chanté plusieurs fois, il est mort, bien plus il est ressuscité, il a vaincu la mort. Vous savez, la mort aux yeux de Dieu, eh bien, c'est pas simplement la mort physique. La mort aux yeux de Dieu, c'est être séparé de lui. Et l'apôtre Paul parlera de certaines personnes en disant qu'ils vivent dans les plaisirs étant morts, quoique vivants. C'est-à-dire, on peut être vivant physiquement, socialement, familialement, psychiquement, intellectuellement, mais être spirituellement mort, c'est-à-dire être sans Dieu. Et c'est ça qui cause toutes sortes d'angoisses. C'est peut-être au milieu de nous, eh bien, quelqu'un qui n'arrive pas à fermer les yeux, peut-être quelqu'un, eh bien, qui, eh bien, a besoin de toutes sortes de médicaments pour pouvoir finalement trouver la paix. Mais c'est pas la paix, c'est quelque chose qui t'en sucre. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a un vide dans ton cœur que rien ne peut combler. C'est la mort. Mais Jésus veut t'amener la vie. Alléluia. Et tu peux être réconcilié avec Dieu. Amen. Alléluia. Et cette vie, cette présence du Seigneur, elle t'inonde, elle te remplit. Alléluia. Tu ne peux plus t'en passer. Alléluia. À lui soit la gloire. Amen. Et c'est vraiment une victoire extraordinaire. Oh, que tu puisses, eh bien, entendre la voix de celui qui te dit, mais soyons réconciliés, parce que la mort, c'est la conséquence du péché. C'est pas parce que Dieu ne nous aime pas qu'il s'est séparé de nous et que nous sommes séparés de lui. Mais c'est en raison du péché, de cette impureté. Lui qui est saint ne peut pas habiter dans l'impureté, dans le péché. Mais voici, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour que le sang de celui-ci nous purifie de tout péché et que nous soyons réconciliés. Alléluia. Et je voudrais m'adresser à celui, celle qui est sans espérance, sans Dieu, qui est mort dans ses péchés. Eh bien, le Seigneur veut remplir ta vie. Amen. Alléluia. Afin que tu ne sois plus jamais seul. Alléluia. Je me souviens d'un petit bouquin lorsque j'étais ado, qu'avait écrit, peut-être que les plus anciens s'en souviennent, c'était dans les années 80, un petit bouquin qu'avait écrit Nicky Cruz, vous vous souvenez? Nicky Cruz, c'était solitaire, mais jamais seul. On peut être solitaire des fois, hein, parce que il y a des temps de solitude au boulot, des fois on est mis au placard, des fois on vit des moments pas faciles, mais on n'est jamais seul, parce que le Seigneur il est là. Alléluia. Il y a des moments de solitude dans la vie que on peut pas... lorsque un frère et une sœur se retrouvent veuves, les enfants sont partis, la maison d'un seul coup elle devient un petit peu déserte, hein. Mais mon frère, ma sœur, Jésus il est là. Compte sur la présence du Seigneur. Alléluia. Recherche et lui, eh bien, est capable de remplir, eh bien, ton cœur. À lui soit la gloire. Alléluia. Et je voudrais dire également ceci, mes frères et sœurs, nous avons d'autant besoin de consolation. Ne nous privons pas de cette consolation, de cette présence du Seigneur, d'autant que l'Écriture nous dit ceci, que la vie chrétienne, même si on a cette espérance sur la terre, on a besoin d'être consolé aussi, hein. Et je parle à nous autres qui sommes des enfants de Dieu. Une épée te transpercera l'âme. On sait de quoi Siméon parle là, hein, prophétiquement. Parce que Marie, elle a vu de ses yeux, même si Jésus c'est le Fils de Dieu, selon la chair, c'est son fils aussi. Elle a vu son fils être crucifié, être mis à mort. Une épée te transpercera l'âme. Il y a vraiment des moments où on a besoin d'être consolé. Vous savez, je fais un petit écart là dans ce que nous voyons. Est-ce que vous croyez qu'un chrétien peut être frustré? Qu'est-ce que c'est la frustration? La frustration, ça veut dire « je ne vis pas tout ce que j'aimerais vivre ». Et parfois, on a entendu un message, « Jésus nous donne la vie en abondance, alors forcément, je ne suis frustré de rien, et voilà, c'est la fête tous les jours, tout le monde devrait, voilà, être un peu planant, vous voyez, etc. » Mais quand je lis la parole du Seigneur, je m'aperçois que quand même, des hommes de Dieu, hein, qui vivent des frustrations, il y en a. Et si je prends le plus grand dans l'Ancien Testament, et bien c'est qui le plus grand homme de Dieu dans l'Ancien Testament? C'est, commence par un M, Moïse. Voilà, Moïse. Eh bien, cet homme de Dieu, il a connu quand même certaines frustrations. Regardez, chapitre 3 du Deutéronome au verset 26. Je vous le lis, chapitre 3 et le verset 26. L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Ça, c'est à cause de lui. C'est à cause de vous. Et il ne m'écouta point et il me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Et le verset 28, la fin. Enfin, donne des ordres à Josué, fortifie-le, affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Suite à une certaine erreur de Moïse, celui-ci s'est vu refuser l'entrée dans le pays promis. Et ça passe pas. Est-ce qu'il y a des choses des fois qui passent pas dans votre vie? Ben, lui, ça passe pas. Seigneur, c'est quand même fort, hein. Parce qu'avec tout ce que j'ai supporté, parce qu'un jour je manque de patience, eh bien, je ne peux pas entrer dans le pays promis. 40 ans de désert, Seigneur. Mais enfin, Seigneur Jésus, quand même, qu'est-ce qui se passe? Et il revient à la charge et Dieu lui dit, ne me parle plus de cette affaire. Dites-moi, s'il y a quelqu'un qui aurait dû être frustré et de traîner, excusez-moi, comme disait ma grand-mère, la savate, pour aller à la réunion, c'était bien lui. Et pourtant, non. On voit que jusqu'à la fin de sa vie, c'est un homme qui ne dérogera point à sa mission, qui sera rempli du Saint-Esprit. Je me suis posé la question, mais Seigneur, comment est-il venu à bout de ses frustrations? Parce que peut-être certains d'entre nous passent par là. Des choses tu vois que d'autres les ont, mais toi tu ne les as pas. Mais comment faire pour ne pas, eh bien, tomber dans une forme d'amertume? C'est la consolation. Et je lis dans le livre du Deutéronome au chapitre 34 et au verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. C'est-à-dire, et je suis persuadé de cela, que le refuge de Moïse, c'était sa communion avec l'Éternel. Il avait une telle relation, une telle communion avec son Dieu, que, eh ben, Seigneur, j'y ai certaines choses sur cette terre que je ne vis pas, eh ben, tant pis. Mais Seigneur, ce que je vis avec toi, c'est éternel. Alléluia. Cet amour, cette paix, cette joie, mes gloires soient rendues au Seigneur. Et à la fin de sa vie, on voit même que Dieu est obligé de le reprendre parce qu'il pourrait vivre encore 120 ans. Vous voyez, il perd pas de vigueur, il est rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Et je voudrais dire ceci, mais c'est de cela dont nous avons besoin. Alléluia. Et je voudrais te dire, toi qui souffres depuis longtemps, ouvre les yeux sur ton Sauveur qui veut te consoler, qui veut te dire, je suis avec toi. Tu peux être dans le désert de ce monde et être comme le peuple dans le désert en disant, mais Dieu est-il là ou est-ce qu'il n'est pas là? Mais sache que le Seigneur, eh bien, a frappé le rocher dans le désert et que de ce rocher viennent des eaux qui sont là pour te désaltérer, pour te montrer que tu n'es pas seul. Alléluia. Approche-toi de lui et lui s'approchera de toi. Alléluia. Et tu seras désaltéré. Et il n'y a rien de plus fort, de plus vrai, de plus beau, de plus authentique que sa propre relation avec le Seigneur. Il y a eu un don spirituel qui nous disait, c'est ça dont on a besoin, oui ou non? Pas d'écouter des messages en boucle, c'est pas ça la relation avec Dieu. Ça peut te faire du bien, on veut pas minimiser tout cela. Mais la relation avec le Seigneur, c'est ton cœur face à face. Alléluia, où tu parles au Seigneur, où il y a cette relation avec le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais avancer en disant que le ministère du Seigneur, Jésus, a réellement été un ministère de consolation. Nous l'avons vu ensemble. Eh bien, il s'est tenu, voilà, auprès de ceux et celles qui, allez, on se laisse pas, qui étaient sans solution. Et vous avez remarqué ensemble, nous l'avons lu, eh bien, une bonne nouvelle aux pauvres, une bonne nouvelle à ceux qui avaient le cœur brisé, une bonne nouvelle à ceux qui étaient, eh bien, opprimés, dans toutes sortes de difficultés, aux aveugles. Il a porté le recouvrement de la vue. Alléluia. Et nous découvrons que dans toutes ces catégories, le Seigneur n'a pas voulu, eh bien, que ces hommes soient abandonnés dans un sentiment, eh bien, de solitude. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi telle ou telle épreuve nous arrive, mais malgré tout, il y a une chose que le Seigneur veut te dire, eh bien, que rien ne peut te séparer, absolument rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce Seigneur merveilleux, il est mort. La mort aurait pu nous séparer de lui, mais c'est Jésus. Il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Rien n'a pu le faire mourir. Alléluia. Rien n'a pu le séparer de la... Et pourtant, s'il y a quelqu'un, et peut-être qui peut compatir bien plus que le meilleur des pasteurs ou le meilleur des chrétiens, la meilleure des chrétiennes, etc., mais c'est Jésus, parce que la solitude absolue, il la connaît, lui. Souvenez de ce cri du Seigneur. Vous connaissez les sept paroles? Un jour, ce serait bien de voir en détail toute la puissance et la sagesse et l'amour que revêtent ces sept paroles du Seigneur à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Vous connaissez tout cela, hein? Je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Les sept paroles du Seigneur à la croix. Vous vous souvenez? J'ai soif, tout est accompli. Mais avant de dire tout est accompli, Jésus dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La solitude. Et là, les ténèbres s'abattent sur lui. Et dans ces moments de solitude, nous voyons le Fils qui est assailli par toutes les puissances de ténèbres, cherchant à le faire tomber, cherchant à le faire défaillir. Mais si tu es le Fils de Dieu, souvenez, les tentations qui reviennent, allez descendre la croix. C'est la subtile tentation que le diable distille à la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Voilà, et puis fais un miracle.
et on croira tous en toi, etc. Mais non, il doit rester sur la croix. C'est le Fils, alléluia. Quel amour. Et malgré la solitude, malgré eh bien, la souffrance, malgré l'oppression, c'est lui qui est vainqueur. Amen. Mais à qui on va comparer Jésus? Alors, certains disent, oui, c'est un prophète. Oh non, c'est plus qu'un prophète, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est le Christ, le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Alléluia. Et il est là, ce Fils, eh bien pour te faire entrer dans la victoire, pour que tu trouves cette consolation. Et l'Écriture nous dit que lorsque Jésus a dit « Tout est accompli », le voile qui se trouvait dans le temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, a été déchiré. Amen. Ça a été déchiré, nous donnant un accès dans la présence du Père. Parce que l'œuvre de Jésus est de nous dire que non seulement nous ne sommes pas seuls, il est avec nous, mais de nous dire à chaque heure, parce que mon sang t'a lavé, t'a purifié, tu peux entrer dans la présence de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous savez, quand on a des enfants, il y a des images qui nous viennent comme ça. Et avec mon épouse, c'est vrai qu'avec les enfants, ils sont encore petits, on peut leur lire la parole du Seigneur le soir. Voilà, et on prie avec eux. Ce sont des moments vraiment privilégiés. Et dans l'une de ces soirées, de ces moments, il y a une pensée qui m'est venue et j'ai dit, mais tu sais, il n'y a que ton papa ou ta maman qui peut entrer dans ta chambre. De temps en temps, il y a un copain, une copine qui vient, etc. Voilà, qui est invité. Mais normalement, dans ce lieu secret, vous voyez où je veux en venir? Qui est ta chambre, il n'y a que ton père ou ta mère qui peut rentrer. Le Seigneur nous fait entrer dans la présence de son Père. C'est un lieu d'intimité. Alléluia. C'est un lieu où tu peux tout dire. C'est un lieu où il faut fermer la porte. C'est un lieu où tu peux t'exprimer. C'est un lieu où tu peux respirer. C'est un lieu où tu ressens l'amour du Seigneur, où tu vis, où tu expérimentes eh bien, cette paix profonde du Seigneur. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions comprendre ensemble tout cela. Après avoir pourvu à notre salut et laver nos péchés pour nous faire entrer dans son ciel de gloire. Mais le but de Jésus, c'est que nous ayons une relation authentique avec notre Père. Que tu saches que ton Dieu t'aime, que tu peux tout lui dire. Et même lorsque c'est la nuit, que tu te sens seul, mais tu n'es pas seul parce qu'il est là pour te délivrer. Alléluia. Et Jésus a vaincu. Amen. Et ça, c'est quelque chose eh bien, d'extraordinaire. Et mes frères et sœurs, mais on en a besoin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai besoin de ces moments-là. J'ai besoin de me retrouver avec mon Seigneur. Et la Bible nous montre que tant d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu ont eu besoin de cela. Je pense à Élie, tant d'apostasie à son époque. C'est le roi Acab, c'est la reine Jézabel. Et Dieu le met à part, le torrent de Kérit. Là, je vais te nourrir, Élie. Là, tu vas avoir de l'eau fraîche, les corbeaux vont venir te donner eh bien, de la viande, tu ne vas pas mourir, mais tu vas survivre. Et c'est ce lieu secret, cette place eh bien, qui est cachée. Moïse trouvera un abri dans le creux du rocher. C'est vraiment cette situation privilégiée. Tout à l'heure, nous l'avons chanté, je crois que le Saint-Esprit a touché nos cœurs. Je suis un enfant de Dieu. Tu en as le titre. Mais est-ce que tu vis tous ces privilèges d'être un enfant de Dieu? Est-ce que tu as cette relation, cette communion? Est-ce que tu vis eh bien, l'heure de cette consolation auprès eh bien, de ton Père? C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, c'est indéfinissable. Qu'on est bien dans la présence de Dieu. Il y avait un chant, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, hein, qui disait, mais qu'on est bien dans la présence de Dieu. Vous souvenez les plus anciens, hein? Mais c'est vrai, on est bien dans la présence de Dieu. Amen. C'est mon Père. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Alors j'avance en disant, le Consolateur, oui, c'est l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, et il nous est dit ceci, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera, Jean 14, verset 16, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. »
Et dans Jean au chapitre 14 et au verset 26, il est dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et il nous est parlé au chapitre 16 et au verset 13 et 14, eh bien qu'il vous convaincra eh bien de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Le paraclète, c'est celui qui plaide, c'est celui qui nous défend. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous encourage. Et nous voyons dans l'Église primitive, première, dans les Actes des Apôtres, vraiment l'action du Saint-Esprit. Voyons des hommes comme vous et moi, qui sont pas plus intelligents ni plus bêtes que les autres, mais des gens normaux, mais ils renversent des montagnes. Et on leur reconnaît une assurance. Et on n'a pas le temps de le lire, mais vous le trouverez dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 7, de 7 à 10. Eh bien, Pierre, Jean, face au Sanhédrin, et ils sont en train de tenir la trajet haute à tous ces théologiens-là, et de leur parler de Jésus, en disant « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ils sont étonnés de l'assurance qu'ils ont. Mais comment ça se fait ? Il est reconnu pour avoir été avec Jésus, mais le texte dit ceci, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il n'est pas seul. Il y a un avocat qui le défend. Et vous savez, un avocat, c'est quelqu'un qui est capable de plaider et de produire des preuves pour attester la véracité de nos propos. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a des dons, qu'il donne à l'Église. Et mes frères et sœurs, prions pour qu'au milieu de nous, il y ait des signes, des prodiges et des miracles pour attester que notre témoignage est la vérité. Peut-être avant tout cela, avons-nous besoin de nous placer dans le Seigneur pour dire, mais est-ce que vraiment je marche dans tes voies parce que le Saint-Esprit ne va pas attester quelque chose qui n'est pas vrai ? On a besoin de ça en amont, mais ça c'est personnel. Mais lorsque les choses sont ok et l'Écriture ne nous dit pas que cela est impossible, loin s'en faut, tout est par grâce dans le Seigneur, mais alors le Saint-Esprit produit des preuves, alléluia, et il nous défend. Et j'ai noté ici, il nous donne même on vous mènera devant des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra leur dire, alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en direct, il ouvre ta bouche, alléluia, pour que tu dises ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Et ça, c'est aussi marché par la foi. Plusieurs fois, cela nous est arrivé. Je me souviens un jour, mon épouse me disait, mais est-ce que tu sais ce que tu vas dire à ce couple qui se posait plein de questions, voilà, il y a eu des soucis. Et je dis non, mais au moment où on les a rencontrés, mais tout est venu et mais Seigneur, j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle. Et le Saint-Esprit est là, alléluia. Il nous donne une sagesse, amen. C'est merveilleux lorsque dans l'Église il y a des dons spirituels et qu'il y a comme une parole de connaissance et quelqu'un au milieu de nous se voit complètement découvert. Mais Dieu est en train de prouver qu'il est là, alléluia. Et on n'est pas seul, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Tu es un avocat, tu as celui qui t'aime et qui veut eh bien, te défendre, qui veut produire eh bien, ses preuves. Alléluia. N'aie pas peur de rendre témoignage. C'est toujours lorsqu'on est sur le terrain que le Seigneur vient à notre aide. Le Seigneur, il ne va pas venir à ton aide dans le canapé ou dans le fauteuil. Mais quand tu seras au travail, témoignant, le Seigneur va intervenir. Je donne simplement ce témoignage. Alors, je parle encore de mon épouse, sous son contrôle. Voilà. Il y a quelque temps en arrière, dans un groupe de jeunes, elle se met à parler de la liberté que nous avons en Jésus à une jeune fille. Et elle lui dit ceci, mais tu sais, j'aurai la liberté, hein. J'aurai la liberté peut-être de me faire un tatouage. Parce que c'est beau un tatouage. Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me faire un petit tatouage sur l'épaule ? Et elle décrit un tatouage. Et pourquoi pas une rose, etc. Ceci. Mais tu sais, je ne le fais pas parce que je sais que ça déplaît au Seigneur. Je ne suis pas sous la loi, mais
mais je sais que mon corps, il appartient à Jésus, donc je ne veux pas bien que ce corps porte une trace de ce qui n'appartient pas au Seigneur. Et la fille, elle change complètement de couleur. Mais comment tu le sais? Comment ça? Ben, cette semaine, je me suis fait un tatouage. Je me suis fait tatouer une rose. Dieu connaît toutes choses. Il connaît les cœurs, alléluia. Et il est celui qui révèle les circonstances. N'aie pas peur, ne crains pas. Je me souviens de cette mère de famille qui était comme cela, mais je ne comprends pas, je n'ai pas l'habitude de faire ça et je ne veux pas le faire. Mais le Saint-Esprit me pousse à regarder dans les affaires de mes enfants et puis elle trouve bien cachées des revues qui n'avaient rien à faire là. Le Saint-Esprit qui dirige une maman pour que le péché n'entre pas dans la maison et sorte du cœur du garçon. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Alors quand on a des parents comme ça, hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Je termine. Je l'ai dit une fois ou deux fois, je ne sais pas. Mais des consolateurs, que nous soyons de ces frères et de ces sœurs qui sont capables d'apporter une consolation. On peut dire, ouais, mais le Seigneur, il est là, il est capable de faire ce que nous, on ne peut pas faire, c'est vrai. Mais vous savez que même les meilleurs ont besoin d'être consolés. Il nous est parlé de l'apôtre Paul qui reprit courage en voyant des frères qui venaient de Rome venir à sa rencontre. Il allait être jugé. Il avait vu la main de Dieu, l'apôtre Paul. Il a parlé à Jésus lui-même. Cette fois, le Seigneur lui est apparu dans sa gloire. La doctrine l'a défini, mais enfin, c'est un homme au niveau de la foi. Mais il est là-haut, hein. C'est bon, hein. Et pourtant, lorsqu'il voit les frères qui viennent à sa rencontre, il reprend courage. Mon frère, ma soeur, allez, on lit un dernier texte et ça sera, voilà, je vous promets, c'est le dernier. Actes chapitre 28, et c'est encore l'apôtre Paul. Et cet homme de Dieu vient de faire naufrage. Dieu l'a gardé, l'a protégé, la parole du Seigneur s'est accompli, le bateau s'est détruit, tout le monde est sain et sauf, ouf, merci Seigneur. Mais maintenant ils sont sur le rivage, l'île s'appelle Malte, il nous est dit, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune, ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Et moi je trouve que le Seigneur veut nous parler. Dieu a béni son serviteur, l'a sauvé de la mort, il a amené des centaines de personnes à Jésus à ce moment-là. Mais cet homme, il avait froid. Et ce feu l'a réchauffé. Et je crois que la consolation, c'est ça. C'est de dire, tu n'es pas seul. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est comme un feu et l'amour, ça réchauffe. Alors, ça ne veut pas dire des grandes effusions, et en ce moment, on ne va pas se faire la bise, etc. Vous le savez bien, hein, voilà. Mais ça veut dire, voilà, mais je sais que tu es là. Merci pour ton coup de fil, même si ça ne durait pas longtemps. Ça m'a fortifié, ça m'a fait du bien. Merci pour cette attention. Et cet homme de Dieu, eh bien, a retrouvé un cours. Et ce feu, pour moi, ça nous parle de l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et si vous lisez attentivement la suite, vous remarquerez que l'apôtre Paul, il va en avoir besoin de ça, de ce feu. Parce que alors qu'il cherche à prendre des broussailles, le diable, il n'a pas fini d'agir. Clac ! Une vipère qui le mord à la main. Heureusement, il y a le feu, il la jette. Elle meurt. On s'attend à le voir mourir, il ne meurt pas. Le Seigneur est là. Alléluia ! Amen ! Gloire à Dieu ! Que nous soyons des consolateurs. Amen ! Des hommes et des femmes pour dire, le Seigneur, il est avec moi, il est avec toi, et tous les deux, on est ensemble. Amen. On va prier le Seigneur.